Donc nous sommes au troisième cours de Christologie et on va parler de la vie publique de Jésus. Alors en fait on va le faire finalement ce cours-ci et puis le suivant et celui d'après encore. Voilà. Alors pour mettre dans le contexte, en fait depuis le baptême jusqu'à la résurrection, c'est le marqueur pour choisir un remplaçant à Judas après la résurrection. Donc ça veut dire que cette vie-là elle est importante. C'est aussi là que les évangiles sont plus détaillés. Je vous ai mis en annexe un peu une comparaison à les différentes périodes de chaque évangile. Comme ça, ça peut vous éclairer pour la lecture. Donc, on a 18 chapitres sur 28 pour Matthieu, 10 sur 7 pour, 16 pour Marc, 18 pour 24, sur 24 pour Luc et la moitié de l'évangile de Jean. Donc, c'est quand même une grosse, grosse partie des évangiles. Et on peut se demander pourquoi il y a cette insistance en se disant finalement ce qui compte c'est l'incarnation puis après la passion et la résurrection. Mais apparemment bah, c'est significatif que, voilà, qu'il y ait autant de choses sur la vie de Jésus, cette vie publique. C'est aussi significatif que le pape Jean-Paul II a rajouté dans le rosaire les mystères lumineux. Sont en fait justement cette partie de la vie publique, en fait. Quand il l'a exprimé, ce qu'il voulait, c'était de replacer l'action et le message de Jésus au cœur du rosaire. Donc il y avait tout ce temps-là qui est aussi important. Et en fait, la figure de Marie, elle nous aide aussi à comprendre tout ça et à suivre les événements, elle qui les a médités dans son cœur. Et on peut se dire aussi que les événements de la passion et de la résurrection sont tellement denses qu'il y a besoin de se préparer, qu'il y a besoin de se compagnonner, il y a besoin d'expérimenter et de voir comment est Jésus pour pouvoir en prendre toute la mesure, même si je crois qu'on n'a jamais fini d'en prendre la mesure. Voilà. Et donc finalement, c'est ce que Jésus il a fait. Il n'a pas choisi ses disciples et puis hop, on y va pour la passion et la résurrection. Non, il a cheminé avec eux pendant un moment. Et donc, c'est ce que nous allons faire dans ces trois cours qui viennent. Alors, en fait, ce que ça nous fait, c'est que ça nous permet de mieux découvrir Jésus, puisqu'on va voir non seulement ce qu'il a fait, il a agi, il a dit, donc il a agi de deux façons, il a surtout dit et puis il a fait des miracles aussi. Et ça, c'est ce qu'on verra dans le prochain cours, plus particulièrement. Et puis, il a aussi appelé les disciples et constitué son église. Et ça, c'est ce qu'on verra dans le cours de février. Voilà. Mais ce que nous met entre la vie publique de Jésus, c'est aussi qui est Jésus, en fait, dans son être de fils. Donc, on le voit aussi à la passion, c'est pas exclusif. Hein, on découvre un peu comment il est fils, en fait. Ce qu'on voit aussi dans cette vie publique, c'est que les annonces de la passion sont les moments charnières. Et qu'on a aussi ces moments clés du début, donc l'intronisation qui est avec le baptême et la retraite au désert, et puis avant la montée à Jérusalem, la transfiguration, qu'on n'est pas tout à fait à la fin de la vie publique, puisqu'après il y a encore un certain nombre de discours qui sont encore dans la partie vie publique, mais on est à un moment charnière avec la transfiguration. Donc en fait c'est ça qu'on va voir aujourd'hui, on va avoir dans un premier temps le baptême et la retraite au désert. Je parle de la retraite au désert parce que c'est pas juste les tentations, il y a aussi ces 40 jours dans le désert. Et puis le parcours de la vie publique, donc là on va un peu survoler les choses, puis on verra forcément plus la fois d'après. Et puis la transfiguration. Alors tout d'abord l'inauguration du ministère de Jésus. Donc c'est les trois synoptiques qui commencent par ça, donc c'est vraiment le début de la vie publique. Donc on commence par le baptême de Jésus et ensuite la retraite au désert. Et les récits sont relativement proches, pas tout à fait les mêmes mots, pas tout à fait, pas exactement pareil, mais enfin globalement c'est la même description. Jean, dans l'évangile de Jean, on n'a pas stricto sensu, il ne nous raconte pas le baptême du Christ, hein, mais il y fait allusion puisqu'il dit, donc Jean-Baptiste, rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et il demeura sur lui. Et puis il raconte ce que Jean-Baptiste a dit de ces événements-là. Donc voilà, donc on l'a par une deuxième, comme un deuxième, un effet rebond. Alors ce baptême, déjà pourquoi le baptême de Jean-Baptiste? Parce qu'en fait, on voit qu'est-ce que ça veut dire. Déjà c'est quelque chose de nouveau, parce qu'on n'est pas du tout dans les ablutions, je sais pas comment on dit ce mot-là, religieuses habituelles. En fait, c'est pas de la répétition, manifestement le baptême, il est une fois le baptême de Jean-Baptiste. Il ne dit pas, vous revenez le mois prochain pour de nouveau en bénéficier. Il y a cette idée d'accomplir aussi une vraie conversion. Et donc, cette conversion, elle redéfinit la vie et de s'y tenir. Donc, ce n'est pas quelque chose qu'on voyait avant. Il y a aussi cette annonce du jugement de Dieu et de la venue d'un plus grand, que Jean-Baptiste annonce en disant qu'il va venir celui qui baptisera dans l'Esprit Saint et le feu, ce que rapporte Matthieu aussi. Et Jean dit que Jean-Baptiste ne le connaît pas, alors que c'est son cousin quand même. Mais bon, il ne sait pas encore qui c'est. Voilà. Il y a aussi dans le baptême de Jean-Baptiste la reconnaissance des péchés. Donc ça, c'est vraiment le cœur du baptême. Et puis, on a toute cette symbolique de la mort, le flot qui anéantit et détruit, comme au déluge. Et de l'autre, une symbolique de vie avec les grands fleuves qui sont... donc c'est toujours ambiguïté sur l'eau dans la Bible. C'est à la fois ce qui détruit et ce qui est eau de mort. Et quand ils sont sur le lac, après, on verra à Tibériade... Là, c'est dangereux. Enfin, c'est plutôt la mort que ça annonce, avec les tempêtes et autres choses. Et puis, en même temps, c'est là que ça est la vie. Et on a toutes les belles, dans l'Apocalypse aussi, sur le fleuve qui irrigue jusqu'à la vallée du Jourdain, cette terre morte. Quoi. Donc, voilà. Donc, il y a cette ambiguïté. Et donc, ce qu'il s'agit, c'est finalement, le baptême, c'est une purification. Donc, on reconnaît ses péchés, on est baptisé et on est libéré ou purifié. Et puis, on peut faire un nouveau commencement avec une mort et une résurrection. Voilà. Alors, je note aussi que Marc, comme Matthieu, prennent soin de noter que Jésus vient de la Galilée. Donc, à cette époque, Jésus vient de Nazareth, ville de Galilée. Alors qu'avant, on a parlé de Jean-Baptiste, il baptisait les gens venus de la Judée, de Jérusalem. Mais on ne parle pas du tout que ça vient très loin. C'est plutôt des mondes juifs. Alors que Jésus, lui, vient de la terre des nations. Jésus veut se faire baptiser. Donc, on va voir un petit peu après ce que ça veut dire. Et puis, je note aussi que le baptême de Jean sera repris par Jésus, puisque un peu plus loin, en Jean 3, 22, il est dit « Après cela, Jésus se rendit en Judée, ainsi que ses disciples. Il y séjourna avec eux et il baptisait. » Donc, il y a un baptême fait par Jésus, voilà, qui continue. Donc, ce n'est pas juste, il y a un baptême de Jean-Baptiste, il y a Jésus qui veut le recevoir, et puis après, on passe à autre chose. Non. D'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'on a le baptême après des chrétiens. Donc, c'est une institution, une instauration. Alors, saint Thomas d'Aquin, du Père Giton, il nous a beaucoup orienté vers saint Thomas d'Aquin, qui se pose plein de questions. Donc, dans la somme théologique de saint Thomas d'Aquin, il y a plusieurs questions sur la vie publique, donc ce qui est bien d'ailleurs, parce que à l'époque, enfin avant lui et puis même de son temps, il y avait peu de commentaires de la vie publique. Il y avait des commentaires d'évangile, stricto sensu, mais il n'y avait pas de grandes réflexions. Voilà. Donc, lui, il consacre quand même un certain nombre de questions. Presque, je crois que c'est 8 ou 9, je ne sais plus, sur la vie publique. Donc, la première question que se pose saint Thomas d'Aquin, c'est le Christ devait-il être baptisé ? Donc, ce que nous dit saint Thomas, c'est être baptisé, c'est être lavé, mais il ne convenait pas au Christ d'être lavé, puisqu'il n'y avait en lui aucune impureté. Il est pur de tout péché. Le baptême de Jean fut un baptême de pénitence, mais la pénitence ne convient pas au Christ, car il n'y a aucun péché. Et le Christ a été circoncis pour accomplir la loi, mais le baptême ne faisait pas partie de la loi. Donc, on ne peut pas non plus le rattacher à... juste être bon juif, quoi. C'était un truc en plus. Donc, voilà. Donc, ça paraît curieux qu'il veuille se faire baptiser. Alors, on voit bien ça dans le dialogue entre Jean-Baptiste et Jésus. C'est moi qui ai besoin de me faire baptiser par toi et c'est toi qui viens à moi. Voilà, comme une inversion du baptême. Et Jésus qui répond, « Pour le moment, laisse-moi faire. C'est de cette façon que nous devons accomplir parfaitement ce qui est juste. » Alors, Jean le laisse à faire. C'est intéressant parce que c'est quand même Jean qui baptise. On a l'impression que c'est Jésus qui agit, en fait. Voilà, et Jean n'est que l'instrument. Alors, la justice, c'est quoi cette justice ? C'est la réponse de l'homme à la loi, donc l'acceptation de l'entière volonté de Dieu. Donc, accomplir toute justice reflète tout le projet de la vie de Jésus. Elle passe par l'acceptation de la mission, de l'incarnation, des abaissements du Verbe, la croix, etc. Et donc le baptême, c'est comme une étape de la réalisation du projet de Dieu, où on doit accomplir ce qui est juste, et donc, c'est-à-dire montrer que l'homme doit retrouver l'ajustement à la volonté de Dieu. C'est ça, c'est la justice, c'est l'ajustement à Dieu. Donc en fait, par solidarité, Jésus a assumé notre condition humaine jusqu'à être compté parmi les pécheurs, et a pris sur ses épaules le fardeau de la faute de l'humanité entière, il l'a porté en descendant dans le Jourdain. Et là, quelque part, en inaugurant sa vie publique et ce fait qu'il descend dans l'eau en portant non pas ses péchés, puisqu'il n'en avait pas, mais les nôtres, bah en fait, c'est une anticipation de la croix. Donc on est bien au début de la vie publique et c'est bien comme un grand temps de mission dont la croix sera l'apothéose et la résurrection encore plus l'apothéose. Jean, il y a aussi la vision de Jean, l'évangéliste Jean, pardon, il y a beaucoup de Jean dans l'histoire, sur l'agneau de Dieu. C'est intéressant parce qu'on est dans la chapelle avec cette magnifique fresque avec Jésus représenté comme un agneau. Donc ça me fait toujours penser à ça. Voilà, Jean-Baptiste, il dit, apercevant Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Alors maintenant, on traduirait les péchés du monde. Et il faut savoir que le mot hébreu talja, alors je ne sais pas prononcer l'hébreu, signifie à la fois agneau, enfant et serviteur. Donc on a dans cette représentation l'agneau de Dieu, le serviteur de Dieu, l'agneau de Dieu, donc il est le serviteur qui porte les péchés du monde, et là on pense tout de suite au serviteur souffrant d'Isaïe. Et en même temps, il est le véritable agneau pascal qui efface le péché du monde en le rachetant, donc la Pâque. Voilà. Et donc, dès le début de sa vie publique, on a cette précursion non seulement de la croix, mais aussi de l'universalité de la mission de Jésus, puisque qui enlève le péché du monde. Donc, c'est déjà pas que les Juifs, et de la même façon qu'il était venu de Galilée, le salut, il est pour le monde entier et pas seulement pour les Juifs. Donc, on a cette universalité. Alors, ce que nous montre aussi le baptême, c'est la manifestation de la gloire de Dieu et de la Trinité. Donc là, on a les quatre évangiles, bah, y compris puisqu'il y a la retranscription par Jean-Baptiste dans l'évangile de Jean, raconte que lorsque Jésus sortit de l'eau, le ciel se déchira, ça c'est l'expression de Marc, s'ouvrit, Matthieu et Luc, que l'Esprit descendit sur lui comme une colombe et qu'une voix venue du ciel retentit s'adressant à Jésus, « Tu es, Marc et Luc », ou disant de lui, « Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je trouve toute ma joie ». Donc on a plusieurs versions, effectivement, mais on a quand même exactement la même chose, le ciel qui s'ouvre ou se déchire. On a la colombe, et puis on a mon fils bien-aimé en qui je trouve ma joie. Alors, ce qu'on peut noter, c'est que Jésus priait et le ciel s'ouvrit. Ça, c'est ce que nous rapporte Luc. Donc, c'est bien Jésus qui en complète, donc qui reprend, c'est la même idée, qui reprend la volonté. Voilà, il suit la volonté de Dieu. Et du coup, par la prière, il se met sous le joug de Dieu. Et du coup, le ciel s'ouvre. Et c'est bien ce qu'est le salut. Voilà. Et donc sa communion de volonté avec le Père, la justice qu'il accomplit parfaitement, ouvre le ciel, dont l'essence est justement que la volonté de Dieu y est totalement accomplie. À quoi s'ajoute la proclamation par Dieu le Père de la mission de Jésus, laquelle ne se définit pas par ce qu'il a à faire, mais son être, il est le Fils bien-aimé. On verra plus tard la transfiguration qui a la mention, après à peu près la même phrase, écoutez-le, mais ce n'est pas au baptême. Au baptême, ce que présente le Père, c'est le Fils, c'est la personne du Fils. On n'est pas encore à dire il faut écouter l'enseignement ou je sais pas quoi. C'est vraiment la personne qui présente. Donc il est, c'est l'être du Fils qui manifeste et pas tant ce qu'il a à faire. Donc on n'est pas sur une mission comme les prophètes, tu iras dire, voilà. C'est pas ça d'abord. C'est d'abord tu es mon Fils bien-aimé. L'image de la colombe rappelle le souffle de l'Esprit planant au-dessus des eaux dans le récit de la création. Voilà, et la descente de l'Esprit sur Jésus constitue une sorte d'inauguration formelle de sa charge, une manifestation qu'il est loin de Dieu. Jésus est Christ Messie. L'Esprit du Seigneur repose sur lui, et on aura le même à la synagogue de Nazareth, on dira la même chose, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Alors là, toujours faire attention qu'on n'est pas dans la catégorie de l'onction comme les prophètes, où ils sont tout d'un coup appelés par Dieu, choisis. Voilà, on est dans plutôt la manifestation que depuis le sein de Marie, puisqu'on vient de, voilà, on vient d'avoir le récit de l'Annonciation à la messe. Voilà, le Saint-Esprit viendra sur toi. Donc c'est dès l'incarnation, enfin dès les tout premiers moments de Jésus sur terre. Donc on n'est pas sur, ça commence au baptême. On est juste dans la manifestation publique. Le baptême est une manifestation publique. Alors que tout à l'heure, la transfiguration sera une manifestation privée. Donc, on a bien la manifestation lors du baptême d'une théophanie avec les trois personnes divines. Et les pères de l'Église, donc les anciens, verront dans cette scène une figure de la Pâque de Jésus. La remontée de l'eau évoque la résurrection, l'ouverture des cieux, l'ascension, et la descente du Saint-Esprit, la Pentecôte. Donc, on a tout le mystère pascal là d'un coup. Et comme on avait la croix aussi, comme ça on est bon, on a tout. Donc ça, c'était pour le baptême. Bon, il y aurait sûrement Jésus de Benoît XVI. Il y a je ne sais plus combien de pages sur le baptême. Hein, donc il y a largement plus que ça à dire. Mais bon, Voilà, j'ai sélectionné quelques aspects. Alors ensuite, la retraite au désert. Là, j'ai eu beaucoup plus de mal à sélectionner, donc c'est beaucoup plus long, puisque finalement, c'est quand même assez curieux, cet événement, et c'est, voilà, c'est intriguant. Donc, aussitôt après son baptême, et ça, tous les évangélistes sont d'accord, Jean n'en parle pas, l'évangéliste de Jean, Jésus est poussé par l'Esprit-Saint au désert. Donc, on a l'impression que c'est la conséquence directe du baptême. Jésus est poussé au désert pour se préparer dans la prière et le jeûne à sa mission. Donc, c'est pas d'abord pour être tenté, même si Marc, il dit « pour être tenté ». Donc, il y a ça, mais ça se passe à la fin d'un certain temps. Et donc, c'est la retraite, c'est pour ça que j'ai employé ce mot-là, retraite au désert, parce qu'avant son ministère public, il va puiser des forces spirituelles au bon déroulement de sa mission, en vivant à temps de retraite, dans le silence et dans le désert, avec Dieu. On pense à Hébreux 4:15. « En effet, le grand prêtre que nous avons n'est pas incapable, lui, de partager nos faiblesses. En toute chose, il a connu l'épreuve comme nous et il n'a pas péché. » Donc là, c'est l'épreuve du désert et du jeûne, mais c'est aussi l'épreuve après des tentations. Donc, on a bien une proximité entre le récit des tentations et celui du baptême. Jésus devient solidaire des pécheurs. Donc là, non pas en portant le péché du monde, mais en se mettant à notre place et quelque part en nous enseignant comment vivre au désert. Alors, une autre, dans Marc, il présente une vision un peu idyllique des choses. Bon, même si ça se termine quand même par les tentations et la fin. Jésus vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Donc là, on a vraiment le désert qui est d'habitude une image complètement opposée à celle du jardin paradis terrestre. Et là, en fait, les bêtes sauvages, elles sont comme au paradis ou comme dans ce que dira le Isaïe 11:6, le loup habitera avec l'agneau, le léopard se couchera près du chevreau. Donc on est bien dans le temps de Dieu, le temps de la réconciliation et de la paix. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, alors les chiffres ne sont rarement sans signification dans la Bible. Et là, le chiffre 40, évidemment, il rappelle les 40 années dans le désert du peuple choisi. Eux aussi, ils ont. Alors, c'est 40 années, là, c'est 40 jours. Mais aussi les 40 jours que Moïse a passés sur le mont Sinaï. Donc, on a cette vision-là. 40 pouvant être interprété aussi comme la question de la totalité. Voilà. Une manière de dire la totalité. Je ne sais plus parce que tu reprends les chiffres. Alors, j'ai évidemment perdu. Ça doit être les 4 points cardinaux fois je ne sais plus quoi. Et voilà, et à la fin, ça fait 40. Comme je n'ai pas noté, je ne m'en suis pas souvenue. Voilà. Alors, Matthieu et Luc parlent de 3 tentations dans lesquelles... alors que Marc ne dit pas ça, il dit juste pour être tenté et il ne mentionne pas les tentations. Donc ces tentations, on voit la lutte intérieure de Jésus pour sa mission, donc elles sont vraiment ancrées dans le cadre de la mission, mais elles sont aussi directement liées à l'identité de Jésus en tant que fils de Dieu. 2 sur 3 commencent par situer le fils de Dieu. Donc il y a comme une interrogation, est-ce que tu es vraiment le fils de Dieu ? Et on voit le parallèle de ceux qui, au pied de la croix, diront à Jésus, si tu es le fils de Dieu, descends de la croix. Donc on est dans la même typologie de l'homme qui met Dieu à l'épreuve, et c'est bien le péché. Donc les tentations, en fait, elles cherchent à savoir si Jésus fait encore confiance à son Père dans son état d'affaiblissement. Je vous rappelle qu'il a jeûné 40 jours, pas rien, et que c'est un homme. Donc c'est pas, même si les anges le servaient, mais bon, quand même, c'est une épreuve. Alors, en réponse à la première tentation, celle de transformer les pierres en pain, Jésus cite l'Ancien Testament, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et on a la même schéma qui se répète lors des deuxième et troisième épreuves, c'est-à-dire que Jésus cite les Écritures de l'Ancien Testament pour indiquer que l'écoute de Dieu, faire sa volonté, est ce qui maintient la vie. Donc là, on est vraiment comme le peuple d'Israël, ou schéma Israël, écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique, etc. Tu écouteras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, etc. Donc là, c'est exactement ce qu'il fait. Et il écoute non seulement, c'est qu'il redit les paroles. Donc ce qui est intéressant, enfin ce qui est drôle, c'est aussi, c'est que le diable aussi, il cite l'Évangile, mais la Bible, pardon, l'Ancien Testament. Mais pas de la même façon, mais justement, en l'interprétant. Voilà. Et on peut voir ce dialogue entre l'utilisation des paroles de Dieu. Vu par le diable et vu par Jésus. On peut faire un parallèle entre les tentations de Jésus et les tentations d'Adam et Ève, puisqu'on a plein de similitudes et plein de contrastes aussi, surtout dans la façon dont on a répondu aux tentations par Adam et Ève. Donc on a les deux, on commence par la tentation liée à la nourriture. Au jardin, on était sur le fruit est savoureux, il vous a dit de ne pas manger les fruits, donc on est aussi sur une thématique de nourriture. Sauf que là, c'était dans l'abondance du jardin, alors que là, on est dans la pénurie du désert. Les deux scènes concernent la vérité et la bonté de la parole de Dieu. Donc il y a cette mise à l'épreuve de la parole de Dieu et de la bien l'entendre, l'écouter pour ce qu'elle est. Et donc Adam et Ève nient ce que Dieu a dit et succombent à la tentation, c'est-à-dire qu'ils réinterprètent la parole et finalement ils se laissent embarquer sur une autre interprétation. Alors que Jésus, il affirme la suffisance de la parole et il reste ferme. Il n'explique pas au-delà. Il reste avec les paroles et il s'en tient là. Voilà. Pas la justification. Adam et Ève sont connus de Dieu intimement et personnellement comme ses enfants, mais ils doutent de la bonté paternelle de Dieu, c'est ce qu'arrive à faire le serpent dans la Genèse, alors que Jésus, il affirme sa confiance en son Père, il refuse de le mettre à l'épreuve, ça c'est une des grosses thématiques, c'est voilà, tu ne mettras pas à l'épreuve ton Dieu, et ça c'est vraiment l'épreuve des tentations, et c'est l'épreuve d'Adam et Ève qui ont pas fait ça. Et puis il se révèle être le fils obéissant qui attend du Père sa vie, quoi. Voilà. Et donc, il reflète exactement, il est le fils qu'a annoncé le Père dans la scène du baptême. Voilà, il est le vrai fils. Et donc, Adam et Ève, leur exemple, ils mènent à la mort, comme Dieu l'avait prévenu, d'ailleurs. Donc là, c'est la parole de Dieu qui a été réalisée. Alors que l'exemple de Jésus a tracé la voie d'une humanité nouvelle qui mène à la vie. Et à la fin du récit des tentations, se conclut par ces mots, « Des anges s'approchèrent de lui et le servaient ». Et là, parce qu'il a résisté, parce qu'il est vraiment fils, et bien là, le psaume 90, puisque c'est les paroles du psaume 90, peuvent se réaliser. Voilà. Mais c'est pas d'abord tu tentes Dieu et tu mets à l'épreuve pour tester ça, c'est tu obéis et après, sera te donné par surcroît.
Qu'est-ce qu'il dit dans le psaume 90 ?
C'est les anges s'approchèrent de lui. Il le mettra des anges sur ta route pour que ton pied ne heurte les pieds. C'est le même thématique. Alors, il y a aussi le thème du pain, quand même, c'est intéressant, c'est voilà, la tentation sur le pain. Donc, il traverse tout l'évangile, on aura la multiplication des pains. C'est intéressant de voir plus tard la multiplication des pains, la prochaine fois. En fait, il a fait la multiplication des pains, donc il a transformé non pas des pierres, mais quelques pains en plein de pains. Et on était aussi dans un lieu désert. Mais à la multiplication des pains, ce qui se passe, c'est que les gens, ils sont venus pour entendre la parole de Dieu. Et puis, ils ont tout laissé tomber. Et du coup, c'est Jésus qui dit, il faut quand même les nourrir. Donc, on n'est pas d'abord pour satisfaire son besoin primaire, mais d'abord, on se met à l'écoute de la parole de Dieu. Et donc, du coup, la multiplication des pains, elle peut avoir lieu, alors qu'au désert, lors des tentations, ce n'est pas le moment. Voilà. Jésus, il est aussi devenu le grain de blé qui, en mourant, porte du fruit en abondance. Voilà, donc c'est tous ces thèmes de pain et puis, évidemment, l'Eucharistie. Et donc, la parole, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sert de la bouche de Dieu. Elle prend toute son amplitude et sa signification. Et nous, dans l'Eucharistie, voilà, on goûte la parole de Dieu, puisque c'est voilà, donc on a bien cette identité entre la parole de Dieu qui nous donne le vrai pain, en fait, parvenu du ciel. Alors, pour la dernière tentation, le diable, il emmène le Seigneur en vision sur une haute montagne. Il lui montre tous les royaumes de la terre avec leur splendeur et lui offre la domination du monde. Vous voyez bien la tentation. Alors, elle n'est pas placée au même endroit dans Luc et Matthieu. Ils ont inversé les deux dernières. Donc, il y en a un qui commence par le temple avant de faire tous les royaumes du monde sur la montagne et l'autre qui fait dans l'autre sens. Mais bon, c'est pas. On peut expliquer. Enfin, Benoît XVI explique ça, mais bon, ça ne m'a pas paru clé. C'est justement la mission du Messie. Donc, là, en fait, le tentateur, il est toujours exactement. Toujours. Alors là, il n'y a pas situé le Fils de Dieu, mais c'est bien la mission, en fait, de Jésus. C'est de régner sur le monde. Il annonce le royaume, il est le royaume de Dieu. Le règne s'est approché de vous, dira-t-il plus tard. Donc c'est, il le tente sur quelque chose qui est vrai, en fait. Sauf qu'il lui demande de se sacrifier devant lui, et donc, du coup, de ne pas être le roi, le vrai roi. Voilà. Alors, quand Jésus aura ressuscité, il dira « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre ». Donc, on reprend la même thématique. Mais, justement, au ciel et sur la terre. Donc, le vrai pouvoir, c'est celui qui est qui est le pouvoir aussi qui vient du ciel. C'est-à-dire que le pouvoir terrestre, il ne sera que voilà, il mène pas très loin. Et donc, il faut qu'il y ait vraiment le pouvoir donné par la bénédiction de Dieu pour être vraiment un vrai royaume, un vrai règne, un vrai roi. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on va retrouver dans toute la vie de Jésus, compris jusqu'à la passion. Voilà, t'es un roi ou pas un roi ? On veut te faire roi, mais à la manière terrestre. Donc Jésus se dérobe, et non. Et puis finalement, il est roi, mais sur la croix. Voilà. Donc c'est pas du tout le roi qu'on attendait. Et bon, donc cette thématique, elle commence dès la tentation. Donc on est vraiment sur une inauguration au sens strict du terme de ces moments-là. Alors ensuite, les étapes de la vie publique du Christ. Donc il y a plusieurs moments et lieux. Alors déjà, a priori, ça fait à peu près 3 années. Alors un peu moins de 3 années, puisqu'il y a 3 fêtes de Pâques et que ça se termine à la 3e. Donc il y a un peu moins de 3 années. Ça, c'est source d'Évangile de Saint Jean. Je vous ai mis les 3 références des 3 fêtes de Pâques qui parsèment les choses. Dans les évangiles, comme je vous l'ai dit la dernière fois ou la fois d'avant, je ne sais plus, Jean est assez bon en chronologie, donc on est plutôt tenté de savoir que c'est sa chronologie qui est la bonne. Et donc, voilà. Et puis, ça met du temps aussi, ce qui n'est pas idiot, parce qu'on voit quand même différents thèmes et plusieurs séquences, même dans les autres évangiles. Donc, on a une première séquence qui est plutôt autour de la constitution du groupe apostolique. Et là, on a les deux listes de comment Jésus a recruté ses disciples. On le verra plus approfondi en février. Voilà, donc il y a soit des additions successives. Donc ça, c'est dans Jean, on est plutôt avec des successions. Dans les synoptiques, on est plutôt avec des rencontres en Galilée au bord du lac, à la suite d'une pêche miraculeuse pour Luc. Et puis, on a quand même Matthieu Lévy qui arrive un peu plus tard. Donc, c'est pas tout en une seule fois. Voilà. Donc ça, c'est les séquences constitution du groupe apostolique et les débuts à Capharnaüm. Voilà, donc ça, c'est les débuts des évangiles, avec la mise en valeur de la première prédication à la synagogue. Et puis, on parle de Jésus qui a sa maison chez Pierre. On emploie le terme « sa maison ». Voilà. Puis après, une année à peu près, où Jésus était plutôt avec de grandes foules à sa suite, on a probablement un reflux avec moins de gens qui le suivent. C'est le moment où il pose des questions dans Jean 6, 68. C'est « Et vous aussi, vous voulez partir ?» où on a la confession à Césarée, où manifestement les gens commencent à se poser des questions et à se dire « Bah ouais, on n'est pas trop pour le suivre. » Voilà. Et à partir de là, donc c'est vraiment un moment clé, la confession de Césarée. Donc c'est Pierre qui reconnaît Jésus comme étant celui qui est le Seigneur. Et à ce moment-là, c'est vrai que Jésus se focalise un peu plus sur l'enseignement des disciples ou des apôtres. Voilà. Et donc, on a quelque chose qui se... Comme c'est des cercles, voilà, ça se resserre parce qu'il est temps de bien former ses apôtres et ses disciples. Voilà. Alors ensuite, on a justement... Il les forme et il commence par les annonces de la Passion. Donc, je vous ai mis les passages. Donc, c'est assez resserré dans Matthieu, mais enfin, ça s'étale quand même entre 16, 17 et 20. Dans Marc, c'est encore plus tassé, mais Marc est plus tassé de toute façon. Et Luc aussi, ça s'étire un peu. Et entre la première et la deuxième annonce, a lieu la transfiguration. Ça, c'est valable pour les 3 synoptiques. Et ensuite, à l'issue de ça, donc on a une nouvelle séquence, j'aurais dû aller à la ligne, où on se met en marche vers Jérusalem via Jéricho. Et donc, c'est la montée vers Jérusalem. Et puis ensuite, la Semaine Sainte. Luc, il met particulièrement en valeur la dernière montée de Jésus à Jérusalem. Donc, lui, il insiste sur ça. Comme s'accomplissait le temps où il allait être enlevé au ciel, Jésus, le visage déterminé, prit la route de Jérusalem. Et ses disciples ne comprennent pas. Voilà. Donc, lui, il marque bien toujours un peu les temps. J'aime bien. Je vous ai mis, donc, à la fin, la vie du Christ comparée dans les 4 évangiles. C'est intéressant de voir aussi que Jean, il le fait beaucoup plus... bouger comme Luc, alors que Marc et Matthieu, on a l'impression qu'il est surtout en Galilée, voilà, et puis après à Jérusalem. Mais il n'y a pas beaucoup d'autres passages, alors que Luc, il va se balader en Judée, et puis Jean, il fait surtout beaucoup d'allers-retours. Donc les lieux sont importants, l'incarnation, c'est aussi des lieux, des temps, voilà. Donc, c'est intéressant. Alors, Jean, il a donc une chronologie un peu différente, avec ses 3 Pâques, d'une part. Ça, c'est très important. Il place aussi les vendeurs chassés du temple à la première Pâque, ce qui est plus logique que juste avant la dernière Pâque, où il était déjà persona un peu non grata vers le temple. Donc, ça paraît plus logique. Voilà. Donc, lui, il a une chronologie un petit peu différente avec, je vous dis, des allers-retours à Jérusalem qui font que, du coup, la géographie est aussi assez différente. Alors après, c'était intéressant de voir que dans Marc 1, 22, 39, on a comme une journée de Jésus. Alors voilà, c'est la journée type de Jésus. Ça se fait dans les séminaires. Donc là, on a une journée type de Jésus. Je n'avais jamais réalisé ça. Hein. C'est pas moi qui ai inventé. Hein. J'ai trouvé ça que je sais plus où. Donc on y voit Jésus qui enseigne, guérit en accomplissant des miracles et prie. Voilà, il fait tout ça dans sa journée. Donc c'est sa journée qui est vraiment sa mission, d'ailleurs, ce qu'il va faire tout le temps. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il est toujours en communion avec son Père et il l'invoque dans tout ce qu'il fait. Donc quand il enseigne, il fait connaître qui est son Père. Quand il guérit, il fait connaître l'amour du Père pour chacun. Et quand il prie, bah, il est en lien avec son Père. Donc c'est vraiment le, voilà, sa journée et finalement ses 3 ans. C'est tout ce qui se passe. Voilà. Et donc sa mission, c'est bien de révéler qui est le Père. Voilà. On est encore dans la même thématique que quand le Père dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé », on est bien sur la personne. C'est pas tant d'agir, c'est pas tant de faire que de révéler qui est le Père. Et donc les actes et les agissements sont plutôt pour faire ça que juste dans l'absolu une finalité en soi. Ça, on le verra beaucoup plus dans les guérisons et les enseignements la fois prochaine. Alors ce qui est intéressant de voir aussi, c'est qu'il y a plein de cercles autour de Jésus. Donc c'est jamais binaire, hein. C'est pas, voilà, il y a les 12 apôtres, puis après il y a les autres. Non, c'est beaucoup plus, voilà, les cercles, on sent que se mêlent. Tout ce que ça montre, c'est que Jésus n'est pas solitaire. Voilà, il est entouré de nombreux disciples. Et puis on a, bah, on parle des 72 disciples, ça c'est dans Luc. Les 12, donc ça c'est une vraie particularité. Il y a quand même les 3 témoins privilégiés. On le verra à la Transfiguration, et puis on le verra à Gethsémani. Et puis il y a le groupe des femmes aussi qui suivent Jésus avec Marie-Madeleine et les gens de la famille. Donc voilà, donc on a plusieurs cercles. On a aussi un peu de gens de la famille, on va en parler un tout petit peu plus loin. Donc les 12, ils jouent clairement un rôle majeur. Ils apparaissent 33 fois dans les évangiles avec des moments privilégiés seulement pour eux. Ils ont même des explications de paraboles seulement pour eux. Voilà, ils ont des missions spécifiques aussi. Donc on est vraiment sur un statut particulier. C'est intéressant, on les appelle les 12. Donc c'est vraiment un groupe en tant que tel. Donc le nombre est fait lui-même la réalité de ce groupe. Donc Matthieu et Marc nous donnent la même liste. Alors il y a des petites nuances de surnoms, d'ordre, voilà, mais bon, c'est la même liste. Et Luc, curieusement, ne donne pas la liste dans son évangile. Il le donne dans les Actes des Apôtres après la résurrection, où évidemment il n'en cite que 11 du coup, puisqu'il ne cite pas Judas. Juste par parenthèse, le disciple que Jésus aimait ne doit normalement pas être distingué de Jean, fils de Zébédée. Donc ça reste quand même plutôt plus sûr qu'il soit Jean, fils de Zébédée, qu'on ne sait pas trop qui. Alors c'est intéressant de voir ce groupe des 12 parce que c'est un ensemble quand même assez peu cohérent. Voilà. Il y a apparemment des membres de la proche famille de Jésus, Jacques le mineur et Jude, qu'on appelle les frères de Jésus, entre guillemets. Des disciples de Jean-Baptiste qui ont suivi Jésus, Jean et André, puisque c'est qu'ils suivent d'abord Jean-Baptiste et puis ils disent bah, « allez voir », et du coup ils suivent Jésus. Des membres de la secte Zélote, c'est-à-dire ceux qui voulaient restaurer Israël dans son indépendance, Simon et peut-être Judas Iscariote. Un publicain, donc Matthieu, Lévi, tout à fait. Donc là c'est un coopérant des Romains, donc pas du tout un bon juif. Des juifs de langue grecque, André et Philippe, un ami des grands prêtres, probablement Jean, puisqu'on dit c'est lui qui le fait rentrer au procès, donc il le fait rentrer dans la cour du grand prêtre, donc il doit avoir ses entrées. Voilà. Donc en fait, on est quand même sur des gens très très différents, et pourtant ils ont suivi Jésus jusqu'au bout, à l'exception de Judas, et tous ont fui au moment de l'arrestation, sauf Jean qui était au pied de la croix. Voilà. Et après la résurrection, on reforme le groupe des 12. Et puis après, on adjoint Matthias pour faire les vrais 12. Voilà. Alors Jésus, il a veillé toute une nuit pour porter ses hommes dans la prière et les choisir. Et puis il a voulu le nombre 12, évidemment, référence aux 12 tribus d'Israël. Et on est bien sur les débuts de l'Église. Et ça, c'est ce qu'on verra en février sur ce nouvel Israël, peuple nouveau qui doit guider le peuple nouveau qui est le peuple de toutes les nations. Alors, ils se penchent, évidemment, ils ont le même rôle que Jésus. Donc ça, c'est intéressant aussi de voir que Jésus leur confère finalement son rôle, sa mission. Donc, se pencher sur la misère humaine en participant en fonction d'exorcistes et de guérisseurs qui sont celles de Jésus. Puisque la guérison est un signe de la venue du royaume de Dieu. Donc, c'est intéressant parce que Jésus n'attend pas la résurrection et la Pentecôte pour les associer à sa mission. Pourtant, il est conscient de leur faiblesse, vous me laisserez seul. Il est témoin de leur jalousie, ça c'est l'histoire de qui est le premier, qui siégera, etc. avec les deux, la mère des frères, des fils de Zébédée qui veulent avoir une place à droite et à gauche. Et puis qui est le plus grand quand il marche sur la route. Marc précise que le Christ forme le groupe des 12 pour être avec lui, les envoyer prêcher, soulignant leur lien personnel avec lui et leur participation à son enseignement. Qui vous écoute, m'écoute. Et puis Jésus leur destine aussi un rôle judiciaire lors de l'ultime jugement, puisque quand le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous aussi vous siégerez sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Donc il les associe complètement à son ministère et finalement sa mission. Ils sont comme des petits Jésus. Le type de disciple, Jean, il utilise rarement le type d'apôtre, qui veut dire celui qui est envoyé, pour utiliser plutôt le type de disciple, qui est vraiment celui qui a été formé par Jésus, celui qui a écouté Jésus. Et ce qui est peut-être plus vrai, en tout cas, c'est l'expérience des 3 ans. C'est plutôt ça qu'ils sont. C'est après la résurrection qu'ils sont plutôt apôtres. Alors, qu'en est-il de la famille? Donc, on voit que Jésus, il a vécu une amende de longues années à la Nazareth, ce qu'on a vu la dernière fois. C'est là que sa famille réside. Sa mère ne s'appelle-t-elle pas Marie et ses frères Jacques, Joseph, Simon et Judas? Et ses sœurs ne sont-elles pas toutes chez nous? Donc, Jésus, en inaugurant sa mission de rabbi itinérant, ce qui n'est pas non plus très classique pour l'époque, a rompu avec le groupe familial qu'il a porté jusque-là, mais qui n'a pas compris son choix et qui essaie plusieurs fois de le ramener à la raison. Il a perdu la raison et ils veulent le ramener à la maison. Plusieurs fois, on a ça dans l'Évangile. Et Jésus marque le changement opéré en déclarant que ses frères et sa mère, ce ne sont pas les membres de sa famille, mais ceux qui font la volonté de son père. En Matthieu 12, 46, 50. Pourtant, il n'y a pas de coupure totale. D'abord, il va à la noce de Cana. Donc, c'est une invitation qui est probablement de voisins ou de famille, puisque c'est sa mère qui est invitée lui aussi. Il vient aussi au moins une fois à Nazareth, puisqu'on a le texte à la synagogue de Nazareth, et puis qui se termine un peu mal, puisqu'ils veulent soit le jeter du haut du précipice, Nazareth étant sur une colline, ou en tout cas, ils étaient choqués à son sujet. Mais on a quand même sa mère au pied de la croix, et non seulement sa mère, mais la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas. Marie-Madeleine n'étant pas forcément de la famille, et donc est plutôt une disciple. Voilà. Et au tombeau, on a aussi la Marie, mère de Jacques, donc le frère du Seigneur, un des apôtres. Donc ça veut dire que cette famille, il y a certains membres de la famille qui l'ont suivi dans sa vie publique. Ils n'ont sûrement pas rien fait pendant 3 ans, puis tout d'un coup appliqué au moment de la croix. Donc ils ont dû le suivre. Et puis on sait que le groupe familial des frères de Jésus continuera à jouer un rôle dans l'Église primitive. Et notamment, on pense que saint Matthieu s'est beaucoup inspiré d'eux pour son évangile. Et puis, il y a d'autres traditions dans d'autres évangiles apocryphes. Donc, voilà un petit aperçu de la vie publique avec les lieux. Alors, il faudrait faire une carte et montrer tous les voyages. Il faudrait faire une découpe très précise des temps, etc. Mais bon. Voilà. En tout cas, c'est intéressant d'avoir quand même une vue globale. Et puis, c'est un temps quand même long où il se passe beaucoup de choses. Donc, on va creuser un peu plus les fois d'après. Alors maintenant, je voudrais parler de la transfiguration, qui est quand même un moment assez particulier et qui est en forte résonance, évidemment, avec le baptême. Donc, ce que nous dit Matthieu, il fut transfiguré devant eux, son visage devint blanc comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Et on peut se demander, est-ce une préfiguration de la résurrection, une manifestation de la gloire de Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé exactement là? Je vous rappelle, on est entre la première et la deuxième annonce de la Passion. Alors, saint Jérôme nous dit que personne ne pense que le Christ, parce qu'il s'est transfiguré, ait perdu la figure et le visage qu'il était auparavant, ou qu'il ait abandonné son corps réel pour prendre un corps spirituel ou aérien. Donc là, ce qu'il veut dire, c'est qu'on n'a pas, tout d'un coup, il ne devient pas un fantôme. Ce n'est pas non plus exactement la résurrection, c'est bien Jésus qui est là. Et c'est son même corps, puisque d'ailleurs, ce n'est qu'un temps passager. Comme il s'est transformé, l'évangéliste nous le dit, son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme neige. Si l'on montre la splendeur de son visage, si l'on décrit l'éclat de son vêtement, ce qui n'est pas vraiment un attribut qui est de la personne, ce n'est pas que la substance disparaisse, mais elle est transformée par la gloire. Donc c'est un peu comme si on avait un rayonnement de la gloire qui apparaît comme la lumière sur le soleil qui éclaire quelque chose. Donc le Christ, par sa passion, est parvenu à obtenir la gloire non seulement de l'âme, gloire qu'il avait depuis le premier instant de sa conception, mais aussi du corps. Voilà. Et donc dans sa transfiguration, en fait, Jésus montre sa gloire lumineuse à laquelle il configurera les siens, lui qui transfigurera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Donc on est un peu dans la même thématique que la résurrection. Donc on n'est pas exactement comme une anticipation de la résurrection, mais plutôt d'un mix entre la résurrection et Jésus au ciel. Voilà, et c'est une préfiguration. Donc c'est un peu par anticipation. De la même façon qu'à la scène, on a, voilà, il peut dire, ceci est mon corps livré pour vous, mais ça ne se passera que le lendemain. Donc ce que nous dit saint Thomas d'Aquin, toujours mon fil conducteur, dans la transfiguration, la clarté a dérivé de sa divinité sur son corps, non comme une qualité permanente affectant le corps lui-même, mais plutôt par mode de passion transitoire, comme lorsque l'air est illuminé par le soleil. Aussi, ce resplendissement qui apparut alors dans le corps du Christ est-il miraculeux comme sa marche sur les eaux ? Donc là, ce qu'il veut dire, c'est que quand on parle de Jésus qui marche sur les eaux, on parle d'un miracle. Et donc, la transfiguration, on peut parler aussi d'un miracle. Dans son corps d'homme, il n'y a aucune raison qu'il y ait ça. Sinon, il aurait été transfiguré depuis sa naissance et tout le temps de sa vie. Donc, il y a cette idée de qualité. Ce n'est pas une qualité permanente, donc on n'est pas dans mais comme une image préfigurée de ça, donc une passion transitoire, comme il dit. Juste un moment pour faire découvrir, comme le voile qui se lève, pour montrer ce qui se passera demain. Alors, clairement, le Christ, il a voulu soutenir la foi de ses disciples. Donc, on a la transfiguration avec les apôtres, les pauvres apôtres qui viennent de s'entendre dire Jésus commence à montrer à ses disciples qu'il lui fallait partir pour Jérusalem, souffrir beaucoup de la part des anciens, des grands prêtres et des scribes, être tué et le troisième jour ressuscité. Donc, évidemment, les apôtres, c'est pas du tout ce qu'ils attendaient et puis ils voient pas trop ce que ça veut dire. Et donc, ils sont tout perturbés. Pierre lui dit même non, ça ne t'arrivera pas, et il se fait rabrouer plus que vivement par Jésus. Il leur avait aussi avoué, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive, car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la trouvera. Donc là, on voit bien que les disciples, ils étaient très déconcertés et clairement, ils avaient peur. Voilà. Et donc, cette idée, c'est que la transfiguration va les préparer en leur montrant en leur dévoilant un petit bout de la gloire de Dieu, de ce qui va devenir pour qu'ils puissent surmonter les épreuves. Saint Ben nous dit, il a pourvu dans sa bonté à ce que ses disciples, ayant goûté peu de temps la contemplation de la joie définitive, soient capables de supporter plus courageusement l'adversité. Saint Jean Chrysostome nous dit, voulant montrer quelle était sa gloire, quelle est cette gloire dans laquelle il reviendra plus tard, il la leur révèle dans la vie présente, autant qu'il était possible de leur apprendre pour qu'ils ne se laissent pas accabler par la douleur de sa mort. Donc ça, c'est vraiment, on dévoile un petit bout du voile pour qu'ils puissent passer l'épreuve, même si on sait qu'ils n'ont pas passé complètement puisqu'ils n'étaient pas là depuis la croix. Hein. Donc voilà, sauf Jean. Alors la transfiguration, on est sur un événement privé. Et donc on a Jésus qui est dans cette phase où il est plus concentré sur ses apôtres, et là sur trois de ses apôtres. Il veut nourrir l'espérance de ceux qui le suivent en manifestant sa gloire devant ces trois apôtres-là. Et donc, comme Moïse qui gravit le mont Sinaï accompagné de Aaron, Nadab et Abihu, donc de trois de ses disciples, des anciens, Jésus fait pareil. Voilà. Et c'est les mêmes trois apôtres qui vont l'accompagner à Gethsémani, qui seront plus près de lui pendant qu'il est pris dans son agonie. Voilà. Et c'est quelque part le versant splendeur réjouissante pour pouvoir supporter la souffrance de la croix. On dit que c'est ses trois disciples parce que Pierre fut éminent et puis c'est aussi le pouvoir qui lui fut confié. Donc voilà, Jean, c'était le privilège de l'amour dont Christ l'aimait s'il est le disciple bien-aimé. Et Jacques, à cause de la primauté que lui conférait son martyr. Et puis il faut savoir que Jacques, il avait un rôle particulier puisqu'il était l'évêque de Jérusalem. Donc dans l'Église, il avait un rôle éminent. Donc on est bien sur les trois grandes personnalités des apôtres, ceux qui sont le plus mis en avant. Alors dans l'épisode de la transfiguration, on a Jésus qui est entouré de Moïse et d'Élie. Alors déjà, ces deux personnages qui avaient de l'Ancien Testament, qui avaient contemplé la gloire de Dieu et reçu sa révélation sur le mont Horeb ou Sinaï. Donc maintenant, ils sont a priori, ils contemplent la gloire de Dieu et donc là, ils entourent Jésus. Voilà. Donc Jésus, il avait été aussi annoncé par la loi que donna Moïse et par les prophètes, dont le principal fut Élie. Donc, il y a quelque chose des deux figures de l'Ancien Testament qui illustrent les deux dimensions de l'Ancien Testament que sont la loi et les prophètes, que Jésus vient accomplir. Et puis, quelque part, ça vient faire le contrepoint de ce que les Juifs ont reproché à Jésus, de transgresser la loi avec les reproches faits autour de « tu respectes pas le sabbat, tu fais des choses qu'il faut pas », ou le blasphème en s'appropriant la gloire de Dieu. Donc, ces deux personnages ne sont pas étrangers à ça. Et puis, la figure d'Élie, c'était aussi toute la discussion. Es-tu Élie ? Il y avait l'idée qu'Élie reviendrait. On le dit pour Jean-Baptiste aussi. Et donc, à Jésus, une des questions, juste avant la confession de Césarée, c'est que pensent de moi les gens ? Et ils disent que tu es un prophète qui serait revenu. Voilà, typiquement Élie. Et donc là, on voit bien que non, la transfiguration, ça montre bien qu'il y a une grande différence entre le serviteur prophète et le Seigneur. Et puis, y a toujours cette idée de témoins, pour que le fait soit garanti, puisque c'est un événement privé. Donc, il faudra quand même des témoins pour le raconter après. Il leur a dit de se taire, on va le voir, mais pour aussi ensuite le dire, mais après la résurrection, quand il sera le bon moment pour le dire. Donc, il faut des témoins. Et là, on a des témoins du temps d'avant, avec Moïse et Élie, puis on a les témoins du temps présent. Voilà. Et c'est l'idée qu'il faut toujours au moins deux témoins pour qu'un fait soit garanti. Donc là, on a cinq témoins, dont deux du passé et deux du présent. Alors, c'est aussi, comme le baptême, une manifestation de la Trinité. Alors, on pourrait dire, tiens, mais il n'y a pas la colombe, mais on a la nuée. Voilà. Et puis, l'autre chose, c'est la phrase. Donc, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. Donc, on a c'est presque la même phrase, et on a écoutez-le. Voilà. Donc, on a le même thème qu'au baptême, c'est la filiation du fils. Donc, il y a une réinsistance juste avant cette épreuve, la montée à Jérusalem et la passion. Que c'est bien le Fils éternel. C'est pas juste un homme. Voilà. Et c'est toujours le Père qui témoigne que c'est bien le Fils. Voilà. C'est ce que dira Jésus, seul le Père connaît le Fils et le Fils connaît le Père. Voilà. Et celui à qui le Fils veut bien le révéler. L'expression « mon fils bien-aimé » fait écho aussi à celle que Dieu adresse à Abraham pour lui demander de sacrifier son fils Isaac. Donc « prends ton fils bien-aimé ». C'est le même vocable. Et donc, on a le parallèle entre Abraham qui prête sacrifier Isaac, qui l'accompagne sans résistance. On a bien l'idée de l'agneau, hein, il porte le bois du bûcher, il dit rien, voilà, il se laisse faire. Il se laisse ligoter sur l'autel, sans rien dire. Et puis le calvaire où Dieu le Père offrit son fils comme l'agneau sans tache, en sacrifice volontaire. Alors, on a toute la Trinité, puisque, comme je vous le disais, l'Esprit Saint, c'est la nuée lumineuse. Et donc, la visualisation de l'Esprit Saint en tant que colombe, c'était pour montrer plutôt l'innocence et la simplicité. Donc, c'était la pureté des péchés au baptême. Et là, on est plutôt dans la thématique de la gloire, de la résurrection. Et donc, c'est la nuée lumineuse qui illustre cette... L'Esprit Saint, c'est toujours pour nous. Alors, du coup, il prend ce qui nous parle mieux. C'est l'avantage de ne pas être dans un corps. Alors, ce qui est particulier aussi, c'est que la colombe au baptême, elle recouvrait que Jésus, donc elle était posée sur Jésus et c'est tout, alors que là, la nuée, elle recouvre aussi les apôtres qui sont pris dans la nuée. Et donc, on est un peu comme la préfiguration de la Pentecôte. Donc là aussi, on est sur ces trois témoins qui vont devoir l'annoncer. Donc, Jésus leur interdit d'annoncer ce qu'ils ont vu. Quand ils redescendent la montagne, il leur dit « vous dites rien ». Mais le Père a dit écoutez-le, et écoutez-le en général derrière ça veut dire annoncez-le, voilà. Mais ce sera après, voilà. Donc c'est pas le moment là. Alors Saint Jérôme nous dit qu'à cause de son caractère prodigieux, l'événement ne serait trop incroyable, et du coup, après une si grande gloire, la croix ne soit scandale, en sorte qu'ils soient les témoins de ces événements spirituels seulement après avoir été remplis de l'Esprit Saint. Donc là, la nuée les recouvre, et donc quelque part ils peuvent comprendre ce qui se passe et entendre, et du coup prendre ses paroles, mais c'est seulement après la Pentecôte et que l'Esprit Saint les aura vraiment reposera sur eux que de façon permanente et non pas temporaire que ils pourront annoncer ce qu'ils ont vu et annoncer la résurrection. Voilà. Cette écoute là, elle est aussi pour ça. C'est aussi le temps où il va y avoir tous les enseignements précis et dans Saint Jean tous les grands discours. Mais aussi dans Matthieu et Luc, où il y a pas mal de thèmes sur le royaume, qu'est-ce que le royaume, qu'est-ce que ça veut dire, veillez et priez, etc. Donc le thème « écoutez-le », il est encore plus important là qu'au début du ministère, après le baptême, où il y a plus d'action, en fait. Il y a plus de miracles et de choses comme ça. Il y a le royaume, mais pas encore tout ce développement de l'enseignement. Voilà. Donc là, écoutez-le, il est très important. Et il servira pour après ensuite annoncer, puisque c'est jamais écouté, juste pour soi. Alors, en conclusion, c'est la vie publique du Christ, c'est une mine pour nous faire connaître le Christ. Donc, merci aux évangélistes de nous l'avoir raconté tout ça, parce qu'on peut cheminer avec lui. Et c'est vraiment tous ces événements qu'on a vus, le baptême, les tentations, même la transfiguration, c'est des exemples de ce qui doit se passer. Et notamment les tentations, donc je vous lis un texte, saint Augustin, le Christ s'offrit aux démons pour être tenté afin d'être le médiateur qui nous ferait surmonter nos tentations, non seulement par son aide, mais aussi par son exemple. Voilà. Et donc il y a cette thématique de s'inspirer, voilà, comment Jésus dans les tentations répond en citant la parole de Dieu. Ça, c'est un exemple qu'on peut utiliser. Voilà. Et puis, lisons les évangiles, méditons avec Marie, puisqu'il y a cette idée d'imprégnation, c'est pas tant un discours, c'est pas tant du texte, qu'une personne qu'il faut qu'on rencontre, et qu'on le Fils bien-aimé, qu'on écoute et qu'on compagnonne avec lui, voilà, pour se laisser configurer avec lui. C'est aussi intéressant de voir que dans cette vie publique, notamment Saint-Luc, il y a beaucoup d'expressions sur les émotions, les sentiments que Jésus avait. Voilà. Il exulte, il prie de compassion, il est en colère, il les regarda d'un œil navré. Il y a plein d'expressions sur comment Jésus sentait les choses. Donc c'est aussi ça, la contemplation qu'on a peut-être moins dans les moments clés à la passion. C'est tellement, on est juste sur la description, on rentre pas. J'ai de ses manies un peu aussi. Voilà, on rentre dans ses sentiments et on peut se laisser configurer à lui. Et c'est intéressant de voir la phrase de Pierre, hein, qui est toujours un peu décalée, mais qui pourtant est très juste, en fait. Parce que quand il le dit, c'est le moment où Moïse et Élie disparaissent et la nuit disparaît. Donc c'est un peu tard le temps qu'il se réveille. Mais c'était très pertinent ce qu'il disait. Voilà, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Et on a envie de capter ces moments phares et de rester là. Mais donc c'est vraiment le désir de contempler la gloire de Dieu. Et c'est ce qu'on aura au ciel dans la béatitude. Mais ce que nous dit le pape François, c'est, pour la transfiguration, nous avons besoin d'un endroit écarté, de ravir la montagne, un espace de silence pour nous retrouver nous-mêmes et mieux percevoir la voix du Seigneur. C'est ce que nous faisons dans la prière. Mais nous ne pouvons pas y demeurer. Voilà, on ne peut pas installer les trois tentes parce qu'il nous faut descendre. La rencontre de Dieu dans la prière nous pousse encore à descendre de la montagne, à regagner la partie basse, la plaine, où nous retrouvons tant de frères affligés par la fatigue, les maladies, les injustices, les ignorances, la pauvreté matérielle et spirituelle. C'est à nos frères qui traversent ces épreuves que nous sommes appelés à porter les fruits de notre expérience avec Dieu pour partager avec eux la grâce reçue. Voilà, et c'est vraiment la thématique de tant qu'on est sur terre, on peut pas juste se laisser aller à la béatitude, mais on doit faire l'œuvre de Jésus qui est sorti de chez lui pour aller faire ce ministère et qui a parcouru la Judée quand même et qui a fait des kilomètres. Voilà ce que je voulais partager. Je vous ai mis donc la vie comparée des quatre évangiles avec les séquences principales pour que vous voyez aussi les grosses différences. Et puis je vous ai mis, parce que comme j'ai potassé saint Thomas d'Aquin, vous avez droit à un bout de la question 41. Sur les tentations, parce que je trouve que c'est intéressant les tentations, parce que c'est pas toujours très facile à cerner ce que ça veut dire et comment les postuler. Alors, je sais bien qu'on est là dans le temps de l'Avent, donc ce n'est pas exactement le moment des tentations. Mais vous pourrez le reprendre tranquillement en janvier ou plus tard. Voilà.